Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, c'est parti. Thomas Soto, bonsoir.
Bonsoir Isabelle Piana, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Je ne suis pas un pigeon de l'année. Il a son langage, le professeur Raoult, l'homme qui semble ne jamais douter de rien, qui pense que tous ceux qui ne pensent pas comme lui sont des jaloux. Il est entendu en ce moment même par la commission d'enquête de l'Assemblée, bien campé sur ses certitudes. Lui qui déteste être contredit ou simplement challengé. Est-ce que vous demandez comment Mozart a fait, disait-il encore ce matin à nos confrères du Parisien. Alors rassurez-vous, on écoute l'audition attentivement et on aura bien sûr l'occasion d'y revenir dans les deux heures qui viennent. Bonsoir Isabelle Choquet.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Voici avec vous les autres grands titres de ce mercredi 24 juin.
C'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. L'affaire colère compensée classée revient dans l'actualité via une note rédigée par Emmanuel Macron. Le président a-t-il fait pression pour dédouaner son secrétaire général? Les policiers ont-ils fait du zèle? On vous explique tout dans un instant. Les municipales J-4 et à Lille, ce n'est pas gagné pour Martine Aubry. La capitale des Flandres pourrait passer au vert. La pollution numérique, un fléau qui prend de l'ampleur. Nos giga plombe le climat. Là aussi, nous devons apprendre à consommer moins. Et puis, gros plan sur les oubliés du déconfinement. Les discothèques, elles ne pourront pas rouvrir avant septembre.
On restera dans l'ambiance vers 18h40 avec Martin Solveig en direct avec nous.
Cet après-midi à Vichy, il fallait jouer le 11, le 9, le 14, le 5 et le 2.
La météo, bonsoir Peggy.
Bonsoir Thomas.
Dites-nous pour demain, toujours aussi beau, toujours aussi chaud?
Exactement.
Au revoir,
alors, il y a juste un petit bémol, c'est qu'il y a un petit peu plus de nuages sur l'ouest demain matin. Et puis attention, évidemment, avec cette chaleur, les averses orageuses vont arriver l'après-midi sur l'ouest du pays et toujours en montagne. Côté température, ça va grimper jusqu'à 36 localement dans le sud-ouest, 35 à Paris et Bourges, 32 à Bordeaux, 30 à Colmar et 29 à Cherbourg.
Merci Peggy.
RTL Soir, Thomas Soto.
On a appris à connaître sa dégaine de druide provençal et ses envolées mégalo de diva de la médecine. Didier Raoult est à la une aujourd'hui car à son tour, il est auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur la crise du coronavirus. Au cœur du débat, la chloroquine, médicament controversé, en tout cas dans le traitement de la Covid-19, mais aussi les tests de dépistage massif pratiqués à l'IHU de Marseille. Marie Mollet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous suivez les débats pour RTL et Didier Raoult est donc interrogé depuis une heure environ.
Oui, et depuis une heure, Didier Raoult parle. Et quand Didier Raoult parle, les députés se taisent. Une audition aux airs de cour magistrale entre affirmations scientifiques et anecdotes personnelles. Le professeur Raoult raconte sa vie, étale sa science et ponctue la plupart de ses longues explications par « j'espère que c'est bien clair ». Il a déjà distribué les bons et les mauvais points au gouvernement.
Je pense que le ministre a été mal entouré à ce stade-là parce qu'il faut avoir des remparts quand on est politique. Il faut avoir des gens qui soient capables d'analyser les articles, qui soient capable de dire, écoutez, ça c'est raisonnable, ça, ça l'est pas, de manière à ce qu'on se retrouve pas dans la situation au milieu du week-end à faire des déclarations sans que personne ait vraiment lu les papiers.
Et il raconte aussi généreusement ses confidences au président de la République. J'ai été le premier à lui dire qu'il fallait faire des tests PCR, jure-t-il. Et puis, il étrille ses confrères chercheurs, notamment les auteurs de l'étude de la revue The Lancet, censés discréditer la chloroquine, l'occasion de rappeler qu'il n'est pas n'importe qui.
On savait que ces gens étaient des menteurs. C'est transparent pour quelqu'un de mon niveau que ce n'est pas vrai. Le point d'interrogation sur lequel, jusqu'à quel point ils sont menteurs, moi je pense que c'est entièrement faux.
Et le professeur Raoult, plus que jamais fervent défenseur de cette chloroquine alors que les hôpitaux n'ont plus le droit de la prescrire, lui continue de l'administrer. Il va là aussi devoir s'en expliquer.
Merci Marie Mollet. On continue de suivre bien sûr cette audition de Didier Raoult devant la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée.
On en vient à un dossier qu'on croyait clos, l'affaire Colère, qui revient empoisonner l'atmosphère à l'Élysée.
En cause, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère, soupçonné de conflit d'intérêts à cause de ses liens avec l'armateur MSC. Une première enquête préliminaire avait été classée sans suite l'été dernier. Mais aujourd'hui, le site Mediapart met au jour une note du président qui dédouane son bras droit. Note adressée par la Défense au parquet financier. Alors, y a-t-il eu pression de l'Élysée? C'est toute la question, Alice Moreno.
Eh bien, impossible de le dire pour l'instant, mais nos confrères de Mediapart révèlent deux rapports de police dans cette affaire aux conclusions radicalement différentes. Le premier indique qu'Alexis Colère n'avait pas signalé ses liens avec MSC quand il était à Bercy. Dans le second rapport d'enquête, paru un mois plus tard, cet élément aurait disparu. Et la note, signée de la main d'Emmanuel Macron, intervient entre ces deux rapports d'enquête. Il y indique qu'Alexis Colère, lui, avait bien signifié ses liens avec l'entreprise MSC et avait également refusé de traiter les dossiers concernant cette entreprise. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, défend pourtant le président de la République de toute tentative d'ingérence dans ce dossier.
En aucun cas, le président de la République, qui est le garant de l'indépendance l'indépendance de la justice n'intervient dans le cours d'une procédure judiciaire engagée. Le président de la République aujourd'hui considère que ne pas verser ce document aurait été priver l'intéressé d'un exercice normal et légitime de ses droits de la défense.
Mais en réaction à ces divergences entre les deux rapports d'enquête, l'association Anticor s'est constituée partie civile, une nouvelle plainte qui relance aujourd'hui les investigations.
Merci. Précision d'RTL d'Alice Moreno.
Et de tout ça, nous parlerons avec Béatrice Brugère dans quelques minutes. Elle est vice-procureure au TGI de Paris et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat SNM-FO.
Emmanuel Macron reçoit en ce moment les partenaires sociaux. Deuxième rencontre au sommet pour sauver l'emploi après la crise sanitaire. Le chef de l'État doit dévoiler ses premiers arbitrages sur le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée. À 4 jours du second tour des municipales, nous partons à Lille, un bastion socialiste qui pourrait tomber. La ville est gérée depuis 2001 par Martine Aubry. Elle était même adjointe dès 95 auprès de Pierre Mauroy. Mais cette fois, ce n'est pas gagné pour la maire sortante. Elle est talonnée par les Verts et elle doit composer avec une abstention record 67% au premier tour. À Lille, pour RTL, Franck Hanson.
RTL, municipale 2020.
Dans les allées du marché populaire de Fives, en porte-à-porte dans les quartiers, Martine Aubry sonne la mobilisation générale avec ses militants lillois. Toujours combative, mais loin d'être sereine, la maire sortante craint une faible participation qui lui serait défavorable.
Il y a beaucoup d'abstention dans les quartiers, de gens qui nous sont favorables et qu'on connaît bien, mais qui ont peur. Le bureau de vote, vous risquez rien. Je compte sur vous. Hein.
On va y aller, on a moins peur là.
On va tourner autour de vous parce qu'on va avoir beaucoup de mal. Hein.
L'ancienne ministre met en avant son expérience.
Moi, je me bats sur les idées. Je pense qu'on va avoir une crise énorme à la rentrée. Il va falloir avoir des compétences, le travail et le caractère aussi. Je prépare déjà un programme pour les jeunes. Quant aux Verts, je le dis très simplement, l'écologie n'appartient à personne. Et surtout pas à ceux qui pendant ce mandat n'ont pas travaillé.
Chez les anciens partenaires des Verts, plein d'optimisme, Stéphane Bally dénonce l'usure du capitaine avec Marie-Bénédicte Allaire.
Voilà les choix historiques qu'ont les Lillois entre un vote d'espoir ou une continuité. Pour faire quoi ? Les propositions que je formule, c'est regarder le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il était il y a 20 ans.
Toujours dans la course, Violette Spielboot, pour La République En Marche, ne pourra même pas compter sur le soutien de toute la droite locale. Le président du département appelle à voter pour son ancien adversaire, Martine Aubry.
Reportage RTL de Franck Hanson à Lille.
Restez avec nous dans un instant, nos ordinateurs polluent, mais il y a des solutions si on change nos habitudes. On en parle juste après la pub.
RTL Soir. Mieux voir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal Isabelle Choquet. Nos mails, nos vidéos, nos films en streaming, tout ça, ça pollue beaucoup. D'ailleurs, ça sera bientôt pire que le trafic aérien.
Oui, c'est ce qui ressort d'un rapport du Sénat sur l'empreinte environnementale du numérique. Actuellement, il représente 2% des émissions de gaz à effet de serre. Mais d'ici 2040, ce sera 7%, donc plus que l'aéronautique aujourd'hui. Alors, ce qui pollue le plus, c'est la fabrication des appareils, mais il y a aussi l'usage qu'on en fait. Et de ce côté, Sophie Jousselin, il y a des solutions toutes simples.
Oui, notamment en ce qui concerne la vidéo en ligne avec les Netflix, Amazon, YouTube. Elle représente 60% du trafic mondial sur Internet. Alors pour diminuer la consommation en données et en énergie du streaming, les sénateurs proposent de réduire la qualité des images sur les smartphones. Patrick Chaise est un des auteurs du rapport.
Il faut peut-être qu'on arrête la course à l'échalote, le 4K, la 3D. Sur un smartphone, ça n'a aucun effet.
Autre proposition, préférer le téléchargement en Wi-Fi plutôt que le streaming, interdire les pubs, les vidéos qui démarrent toutes seules et poussent à la consommation. Nous devons rester maîtres de ce que nous regardons.
Ce sont des petites choses tout à fait pragmatiques et qui ont vraiment des effets bénéfiques, immédiats et, j'allais dire, sans douleur. C'est pas dramatique si la vidéo part pas toute seule. Un petit clic, c'est pas grand-chose, mais c'est un acte. Je veux regarder ça.
Le problème des données, c'est qu'elles sont invisibles, on les consomme sans s'en rendre compte. Pour le sénateur Patrick Chaise, il faut les gérer comme l'eau et l'électricité.
Il faut considérer la donnée comme un litre d'eau, comme un kilowatt d'énergie électrique. Et on le sait bien, la meilleure façon de faire de la maîtrise, c'est de ne pas consommer. C'est donc de diminuer ses consommations. On le fait dans l'eau, on le fait dans l'électricité. Il faut qu'on le fasse aussi sur la data.
En France, la consommation des données mobiles augmente chaque année de 30%.
Merci Sophie Jousselin. Ce sont les grands oubliés du déconfinement. Alors que tous les secteurs sortent peu à peu du confinement, les discothèques et les bars de nuit doivent rester fermés jusqu'à septembre. Une décision que les syndicats menacent d'ailleurs d'attaquer au Conseil d'État. Mais en attendant, les professionnels de la nuit sont en pleine déprime. Vous l'avez vérifié, Nerissa Imani à Saint-Étienne.
Oui, Brian s'attendait à rouvrir son établissement cette semaine, le plus grand du centre-ville. Mais c'est le cœur lourd qu'il nous ouvre ses portes.
Ça fait très bizarre de voir son entreprise à l'arrêt. Tout est prêt, j'ai l'hydro bureaux alcooliques, masques. Nos tables sont quand même assez loin des unes des autres.
Ici, la capacité d'accueil est de maximum 500 personnes. Alors interdire l'ouverture de sa boîte de nuit, Brian ne comprend pas.
Pourquoi on nous bloque alors qu'on ouvre les théâtres, les cinémas, pourquoi le virus circulerait plus vers les cinémas que vers les boîtes de nuit ou vers les stades de foot? Clairement, pour moi, le gouvernement veut qu'on mette la clé sous la porte.
Financièrement, l'aide de 1500 euros de l'État ne suffit pas à payer les charges mensuelles. Même chose dans la boîte de nuit de Stan. Déjà 60 000 euros de perte de chiffre d'affaires.
C'est énorme, 60 000 euros. Nous, on est un petit établissement, comme vous pouvez le voir. Demain, on veut vendre. Notre fonds commerce, il ne vaut plus rien aujourd'hui. Tout le monde s'en fout. Et demain, on est laissé à l'abandon. C'est la mort. C'est la mort pour nos personnels. Demain, une ville sans boîte de nuit, c'est une ville morte.
Aujourd'hui à Saint-Étienne, plus de la moitié des boîtes de nuit menacent de fermer définitivement.
Nerissa Emani du bureau RTL de Lyon.
Et puis Peggy Broche nous avait prévenu, nous y sommes, il fait chaud, il fait très chaud, il fait même déjà un peu trop chaud par endroit, Isabelle.
Oui, une bonne partie de la France flirte avec les 30 degrés, un peu plus, un peu moins, ça dépend des endroits. Pas de canicule en vue, ça redescend la nuit, puis ça ne va pas durer, mais quand même, on transpire un peu. 35 degrés aujourd'hui à Grenoble, les Isérois vont chercher la fraîcheur en altitude, Serge Puyot.
Col de la Croix de Fer, 2067 mètres d'altitude, au lieu du Tour de France, Dominique, un cyclotouriste, arrive au sommet après avoir souffert.
C'est vrai que c'est pas évident. Ah, mais j'adore la montagne. J'aime bien grimper, alors ça me plaît.
Maëva, elle arrive de Grenoble pour trouver un peu de fraîcheur. Au col, il ne fait que 20 degrés.
C'est mieux qu'en bas. Ça fait du bien avec la chaleur de Grenoble en ce moment. Prendre l'air de la montagne, c'est cool. L'air frais, c'est bien. Là, on a fait une petite balade, un petit pique-nique.
Marie-Laure savoure dans un paysage de montagne majestueux.
C'est splendide, on en prend plein les yeux. On respire très bien, à 2000 mètres. Pas de pollution, rien, l'air pur, l'air sain. C'est le paradis terrestre. Après le Covid, c'est vrai qu'on est un peu sur une autre planète ici. Hein.
Véronique est aussi venue pour déguster une tarte aux myrtilles à la buvette du col.
Moi, je suis venue que pour la tarte aux myrtilles. À 2067 mètres, elle a une saveur au top.
Oh, c'est sûr, quand on voit qu'à Grenoble, aujourd'hui, je crois qu'il fait 35. Ici, on respire, on a l'air frais, on est bien, on est très très bien.
Fraîcheur, tarte aux myrtilles, le col de la Croix de Fer, c'était bien le paradis aujourd'hui.
Voilà, une petite bouffée de fraîcheur signée Serge Puyot, correspondant d'RTL dans les Alpes. Qui dit chaleur dit pollution, pollution à l'ozone en région parisienne. La circulation différenciée est donc mise en place demain. Entre 5h30 et 20h, seuls les véhicules avec une vignette critère 0, 1 ou 2 pourront circuler dans une zone délimitée par l'A86. La vitesse maximum est aussi réduite de 20 km/h.
Merci beaucoup Isabelle. Dans un instant, quand justice et politique se fréquentent peut-être d'un peu trop près entre fantasme et réalité, on l'évoquait dans le journal, on en parle tout de suite avec Béatrice Brugère, vice-procureure et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO.
RTL Soir.